Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 1, rapport intime de l'Inde, de la Perse et de la Grèce. Les trois foyers de la lumière, l'Inde, la Perse, la Grèce, brillent à part, sans reflet mutuel, sans se mêler, sans presque se connaître. Il le fallait ainsi pour que chacun d'eux, librement, fournît toute sa carrière, donnât tout ce qui fut en lui. Le beau mystère de leur intime rapport, ouvert par les Védas dans le mystère du dogme, est simple. Le voici formulé pour la première fois en ce qu'il a d'essentiel. Le Véda des Védas, le secret indien est ceci. L'homme est l'aîné des dieux. L'hymne a tout commencé. La parole a créé le monde. Et la parole le soutient, dit la Perse. L'homme veille et son verbe incessamment évoque, perpétue la flamme de vie, fera vie du ciel même. Et malgré Jupiter, ajoute l'audacieuse Grèce, ce flambeau de la vie que nous nous passons en courant, un génie l'alluma et le remit à l'homme pour en faire jaillir l'art, se faire créateur, héros, dieu. Durs travaux. Il n'importe. Captive en Prométhée, il remonte au ciel en Hercule. Voilà l'identité réelle des trois frères, leur âme commune, voilée dans les premiers, et dans le dernier éclatante. Mais quelle que fût l'unité intérieure, il était essentiel aux libertés du genre humain qu'elle ne fût aperçue que tard, que l'Asie déjà vieille, 500 ans avant Jésus-Christ, n'étouffa pas la Grèce, que la Perse altérée par le mélange chaldéen ne lui imposa ce chaos. Elle lui arrivait dans le cortège impur de Babylone, du Moloch phénicien, de la fangeuse Anaïtis, dont Artaxerce, près de l'autel du feu, dressa partout l'indigne autel. Le grand événement de ce globe, incomparablement, c'est la victoire de Salamine, la victoire éternelle de l'Europe sur l'Asie, fait de portée immense, devant lequel tout disparaît. Nous lisons, relisons sans nous lasser jamais Platée, Marathon, Salamine, toujours avec ravissement, avec le même élan de joie. Non sans cause, c'est notre naissance. Nous nous levons alors, comme dit le Cid. C'est l'air d'où part l'esprit européen, disons l'esprit humain, dans sa liberté souveraine, dans sa force d'invention et de critique. Esprit sauveur du monde, sa victoire sur l'Asie assura la lumière dont fut éclairée l'Asie même. La Grèce si petite a fait plus que tous les empires. Avec ses œuvres immortelles, elle a donné l'art qui les fit, l'art surtout de création, d'éducation qui fait les hommes. Elle est, c'est son grand nom, le peuple éducateur. Telle y fut la force de vie que, 2000 ans après le langage de plomb, il suffit d'une ombre légère, d'un lointain reflet de la Grèce pour faire la Renaissance. Que restait-il ? Un rien. Ce rien mit tout dans l'ombre, subordonna, éclipsa tout. Il fallait peu. Quelques fragments épars, des feuillets vermoulus, quelques troncs de statues sont tirés de la terre. L'humanité frémit. Des deux mains, elle embrasse le marbre mutilé. Elle s'est retrouvée elle-même. C'est bien plus qu'une œuvre. C'est le cœur qui revient, la force, la puissance. C'est l'audace et la liberté, la libre énergie inventive. Transformation, éducation, c'est le vrai génie grec. Il est le magicien, le grand maître en métamorphose. Le monde autour de lui fait cercle et rit. C'est un jeu, disent-ils, une vaine féerie, c'est un amusement des yeux. Puis, peu à peu, l'on voit que ce cycle amusant de formes variées par où passent les hommes et les dieux, c'est une éducation profonde. Rien de caché, tout en lumière, point d'arrière-scène, de crypte ténébreuse. Tout se fait en plein air, par devant le soleil, dans le grand jour de la palestre. Ce beau génie n'est point avare, jaloux. Les portes sont ouvertes à deux battants. Approchez et voyez. L'humanité saura comment se fait l'humanité. Comment, dans les 1000 ans de poésie que résume Homère, se fit l'engendrement, l'éducation des dieux. C'est le grand travail ionique. On suit sa trame transparente. Comment, dans les longs siècles de la gymnastique dorienne, les jeux, les fêtes, ont fait des dieux vivants les types de force et de beauté, la race d'Hercule et d'Apollon. On le voit, on le sait, on y assiste encore. Comment, à l'encontre du temps, de la mort envieuse, lutta l'immense effort de la création statuaire, l'art amoureux d'éterniser le beau. On peut l'étudier malgré la grandeur de nos pertes. Comment, enfin, de la double analyse du drame, de la philosophie, s'éclairèrent les luttes de l'homme moral, jusqu'au moment sublime où, dégagé du dogme, sortit la fleur du monde et son vrai fruit, le juste, d'où Rome prend son point de départ. C'est la plus lumineuse histoire que le génie humain ait laissée de lui-même.